Bonjour et bienvenue pour cette édition du Labomatique. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Aujourd'hui, nous allons parler zoologie en compagnie de Gaël Richard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et de suivre à l'occasion des journées européennes des collections scientifiques dimanche dernier. Nous sommes aujourd'hui au département de collection zoologie en compagnie de Gaël Richard, qui est chargé de la collection. Bonjour Gaël, est-ce que tu veux bien nous présenter un peu ce que tu fais, toi et ton travail ?
Bonjour, donc mon travail est très pluridisciplinaire puisqu'il s'agit de la conservation et de la valorisation des collections. Donc c'est à la fois du travail d'inventaire et également au niveau de la valorisation, donc la gestion des prêts, des aides pour la mise en place d'expositions, la mise en place d'expositions elles-mêmes lors des journées portes ouvertes par exemple. Également une gestion du secrétariat, gestion des nouvelles acquisitions et des enseignements en lien avec les collections.
Justement, en parlant de ces collections, quelle est l'importance des collections dans le patrimoine de l'Université de Rennes 1 ?
Alors, il faut savoir que les collections de l'Université de Rennes 1 sont en fait très importantes au niveau du patrimoine national, puisque on est une des 10 plus grandes collections universitaires de France. Donc ça c'est lié à l'histoire dont je parlerai tout à l'heure, mais donc il y a les collections de zoologie, mais il y a également des collections de botanique, donc à la fois des herbiers et des serres, entre autres, des collections d'instruments scientifiques, de géologie, un parcours des œuvres d'art, et également on travaille en lien avec le musée de Penmar, donc musée de la préhistoire. Et on travaille également avec le service commun de documentation, donc notamment... soit pour des expositions, soit en lien avec leur collection de livres anciens. Et il y a également donc, la collection de lichens qui se trouve sur le campus santé de Villejean.
Justement, parlez-nous un peu plus de l'histoire de vos collections.
Donc en fait, l'histoire de ces collections débute en 1740 avec le cabinet de curiosité de Christophe Paul de Robien, qui était président à Mortier du Parlement de Bretagne et qui avait commencé un cabinet de curiosité. D'ailleurs, le musée des Beaux-Arts a fait une exposition temporaire à ce sujet. Donc, ces collections ont été saisies à la Révolution française et donc sont devenues bien publiques. La ville de Rennes a donc ouvert un musée d'histoire naturelle avec comme base ce cabinet de curiosité. Et donc, je passe les détails, mais en 1840, il y a eu donc la création de la faculté des sciences à Rennes. Donc il y a une partie des collections d'histoire naturelle de la ville qui a été léguée à l'université à ce moment-là pour que les objets soient utilisés lors des enseignements. Donc à la fois la botanique, la zoologie, mais aussi les instruments scientifiques. Et en 1945, donc le toit en fait, qui abritait les collections du musée d'histoire naturelle étaient trop endommagées pour garantir une bonne conservation des collections. Donc la ville de Rennes a mis ses collections en dépôt à la faculté des sciences. Donc le bâtiment se trouvait place Pasteur à l'époque. Et lors de la création du campus de Beaulieu en 1967, les collections sont venues sur le campus. Donc il y a eu sur le campus lui-même énormément de déménagements. Puisqu'il n'y avait pas de lieu attitré pour ces collections et qu'il fallait garantir une bonne conservation, donc des lieux sans lumière, puisque les ultraviolets détruisent les pigments et donc abîment les collections, mais également sans humidité, puisqu'il faut garantir un taux d'hygrométrie et une température stable. Sachant qu'il n'y avait pas de personnel attitré pour les collections, c'était uniquement des enseignants-chercheurs qui faisaient un travail bénévole. Donc notamment, on peut citer Alain Canard et Bernard Le Garf. Je dirais, sans eux, ces collections de zoologie auraient été complètement perdues, détruites, s'ils n'avaient pas donné justement ce travail bénévole. Et en 2000, en fait, il y a eu la création de la commission de culture scientifique et technique à l'université. Donc le projet était tenu par Dominique Bernard et Alain Canard. Donc cette commission a quand même permis à l'époque de faire valoir le fait qu'il fallait du personnel pour l'entretien de ces collections. Donc on a eu un petit budget personnel qui permet en fait de faire vivre un petit peu ces collections.
Alors justement, est-ce que tu pourrais développer un peu plus le fonctionnement, enfin, sur le fonctionnement des collections scientifiques de Rennes 1? Comment est-ce qu'on fait pour gérer autant de collections différentes?
Donc en fait, la commission de culture scientifique, donc le responsable c'est M. Joël Bousty, qui est également directeur d'un laboratoire de recherche, donc il a également beaucoup de travail à côté. Cette commission gère à la fois toutes les actions de culture scientifique menées par les membres de l'université de Rennes 1. Donc, par exemple, il y a beaucoup de conférences à l'espace des sciences qui sont faites par des enseignants-chercheurs de Rennes 1. Donc, le rôle de cette commission, c'est de gérer ces actions de médiation interne ou externe à l'université. Et l'autre pôle, c'est justement la gestion des collections. Donc là, on a par exemple la collection de géologie est gérée par Jean Plaine, qui est conservateur. Les collections d'instruments scientifiques sont gérées par Audrey Chambet, qui est donc chargée de collections, alors à mi-temps pour les instruments scientifiques et à mi-temps pour les collections de botanique. La serre de botanique est gérée par Marie-Thérèse Misset et donc... moi, je m'occupe de la partie zoologie, sachant que donc on travaille beaucoup en lien avec le service culturel de l'université, donc le Diapason, donc géré par Marie-Aude Lefebvre.
Vous en êtes à combien de bénévoles pour toutes les collections?
Alors là, cette année, donc ce sont des bénévoles qui, alors certains restent d'année en année. Et d'autres arrivent. Donc là, cette année, on a 4 bénévoles pour l'instant qui nous aident grandement puisqu'ils nous permettent, par exemple, lors des événementiels, de gérer le public et au jour le jour de pouvoir avancer sur les collections, de pouvoir faire des prêts, de pouvoir avoir une présentation qui est correcte à la fois pour les visites mais également pour les enseignements puisque on a besoin que les objets soient documentés, soient présentés de façon correcte. Donc je remercie grandement Julie Prisé, Valentin Hiver, Maëva Coleman et Manon Riet pour toute l'aide qu'ils nous apportent. Et je tenais aussi à remercier les étudiants du Cercle Naturaliste des étudiants rennais donc, qui nous aident régulièrement à la fois sur les collections et également lors des événements. Donc. Merci.
Quel projet est-ce que vous avez pour les collections dans un avenir proche ou à moyen terme ou éventuellement à plus long terme?
L'idée qu'on a en fait, c'est d'avoir une réhabilitation en fait des bâtiments de façon à pouvoir avoir une gestion correcte. C'est-à-dire que là, nos bâtiments de collection sont proches les uns des autres, donc d'avoir une cohésion de cet ensemble de collections qui soit cohérent. De façon à avoir une gestion simplifiée et une conservation améliorée, puisque là, en fait, les locaux qu'on utilise ne sont pas propres à faire une conservation adéquate. Or, étant donné qu'on a vu, c'est un patrimoine qui est important du point de vue scientifique, mais également du point de vue historique, c'est vraiment important pour nous d'avoir des locaux qui soient aptes à permettre une conservation correcte. Et également, évidemment, le personnel qui va avec, puisque sans personnel, on ne peut pas avoir une conservation correcte et encore moins de valorisation, puisque la valorisation prend énormément de temps.
Comment se déroule l'utilisation de ces collections? Est-ce qu'il s'agit juste d'expositions pour le public à voir ou est-ce qu'elles sont utilisées à d'autres fins?
Alors oui, tout à fait. Le but premier, c'est bien d'avoir une utilisation universitaire en interne. En fait, ces ouvertures au public, c'est vraiment un plus pour nous. On a 5 dates d'ouverture au grand public, c'est vraiment pour partager. Mais le fond essentiel de notre travail, c'est bien une utilisation en interne au sein de l'université. Donc à la fois pour l'enseignement, donc il y a plus de 100 heures d'enseignement qui sont faits sur ces collections, c'est-à-dire à la fois je cite l'exemple de la zoologie, l'utilisation des collections pour les enseignements d'identification et de classification du vivant. Donc là, ils vont prendre des spécimens et ils doivent les identifier pour comprendre en fait la classification du vivant. Donc c'est vraiment des enseignements de biologie animale et également des enseignements de médiation scientifique où là, le but, ce sera plus d'apprendre à partir d'un objet à avoir un discours adapté, c'est-à-dire adapté soit à des scolaires, soit à du public, un exercice de médiation. Elles sont également utilisées en recherche. Par exemple, on a un herbier de lichen, donc du professeur des abbayes, qui est hébergé au laboratoire de produits naturels, synthèse et chimie médicinale, donc sur le campus santé de Villejean. Et en fait, ces collections sont très utiles dans le sens où elles permettent aux chercheurs donc en pharmacognosie qui travaillent donc sur des substances extraites de lichen, de connaître d'après les données de cette collection les lieux où on va pouvoir récolter telle ou telle espèce. Donc en fait c'est pour eux un fonds documentaire inestimable puisque ça leur permet de retourner après sur le terrain à l'endroit indiqué par la collection pour récolter leurs spécimens. Un autre exemple, c'est en entomologie où on a environ 100 000 spécimens avec une bonne partie bien documentée au niveau des données stations, donc date et lieu de récolte. Et en fait, ces données-là, on peut les rentrer dans un projet qui s'appelle l'Inventaire national du patrimoine naturel, donc qui est organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et qui permet en fait de rentrer ces données, c'est-à-dire de dire telle espèce, je l'ai trouvée, elle a été trouvée à tel endroit, à tel moment. Ce qui permet en fait d'avoir une base de données gigantesque pour énormément d'espèces et qui permet de suivre en fait l'évolution de la répartition des espèces. Donc qui est essentiel pour comprendre justement la dégradation des milieux. Et donc pour comprendre ce qui se passe actuellement, c'est indispensable de se référer à ce qui s'est passé depuis 2 siècles. Ça permet de comprendre vraiment le phénomène en profondeur.
Il est temps de faire un petit interlude musical avec Motor City de Robert Hood. Thank you. C'était donc Robert Hood avec le titre Motor City. Revenons à la collection zoologique en compagnie de Gaël Richard.
Justement, au niveau de la médiatisation de vos collections, quand on vient sur le campus de Rennes 1, si on n'est pas au courant qu'il y a des collections, c'est pas forcément évident de les trouver. Est-ce que vous, quelles actions penseriez-vous qui seraient intéressantes de faire afin de mieux médiatiser ces collections et que les gens sachent qu'elles soient là et comment y s'y rendre ?
Alors, c'est vrai que donc, tout le travail d'organisation des événementiels, donc c'est Audrey Chambet qui fait ça en plus déjà de sa charge de travail actuelle. Donc, un des problèmes qu'on a, c'est que... il faudrait vraiment que les locaux soient, disons, plus ciblés avec un lien. L'idée qu'on aurait, c'est d'avoir une visibilité à l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, je sais pas, un signe à l'extérieur qui permette de vraiment d'identifier les bâtiments dans lesquels effectivement sont situées ces collections. Et il faut voir par exemple que le musée de géologie, qui est ouvert au public toute l'année en dehors des périodes de vacances scolaires, il y a très peu de gens de l'extérieur qui viennent, simplement parce que il est pas identifié et que c'est vrai qu'il y a peu d'actions de communication qui sont faites sur effectivement cette possibilité de visiter ces collections. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail à part entière et que ça dépend également de l'état des bâtiments. On peut pas et du personnel, puisqu'on ne peut pas en fait accueillir du public en dehors de ces 5 journées, étant donné que on n'a pas un personnel dédié aux visites. Mais c'est vrai que déjà, s'il y avait une identification du bâtiment, ça serait bien.
Et au niveau de l'audience universitaire auprès des étudiants de l'université de Rennes 1, qui est une université quand même relativement vaste, est-ce que vous sentez que vous avez une réelle audience importante ou est-ce que ça manque justement de public au niveau des étudiants qui viendraient d'eux-mêmes ?
Donc c'est vrai que les étudiants qui sont dans les filières où il y a des enseignements en lien avec les collections, ils connaissent. Ceux qui viennent durant les événementiels, ils connaissent également, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, par exemple, qu'il y a un musée de géologie. Simplement du fait que c'est vrai que c'est pas bien identifié, je pense, au niveau des bâtiments. Du coup, ils ont du mal à les situer, donc même s'ils savent qu'il y a des collections, ils ont du mal à situer le lieu et donc à s'y rendre.
Donc du coup, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel bâtiment on peut trouver ces collections ?
Donc les collections de zoologie se situent au bâtiment 3 et 4, les collections de géologie au bâtiment 5, les collections d'instruments scientifiques au bâtiment 6, une partie des collections de botanique se trouve au sous-sol du bâtiment 2, une autre partie au bâtiment 29, il y a également des collections de recherche en zoologie au bâtiment 25, et puis les serres de botanique. Donc vous voyez, c'est très dispersé. Il y a également donc, les collections de livres anciens du centre du service de commun de documentation. Donc vous voyez, c'est très dispersé sur l'ensemble du campus, ce qui fait que c'est pas très facile d'une part à identifier et d'autre part à gérer.
Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines des plus belles pièces que vous pourriez avoir en zoologie ou de celles qui vous ont marqué personnellement ?
Personnellement, la plus belle, moi je trouve que c'est la dent de narval, donc en fait ce qui a donné lieu à la légende de la licorne. Donc elle était là en prêt au musée des Beaux-Arts, elle va revenir bientôt. Et celle que, disons, que j'aime le plus, c'est le cacapo, parce que donc c'est un perroquet nocturne et terrestre de Nouvelle-Zélande et qui est une des espèces les plus menacées au monde. Donc il reste 126 spécimens vivants. Donc. Après, il y en a énormément. Il y a un ornithorynque, il y a un kiwi, il y a plein de choses vraiment, vraiment intéressantes à voir. Un ours, un squelette de girafe, un squelette d'éléphant. Il y a énormément de choses.
Et au niveau de la collection de zoologie, est-ce qu'elle s'enrichit toujours à un rythme régulier ou est-ce qu'on part sur des anciennes bases avec les collections apportées au fil des années à partir des anciennes collections de la ville de Rennes ?
Alors, la majorité, oui, c'est évidemment les anciennes collections, mais on a quand même une politique de nouvelles acquisitions, donc on essaye d'avoir quelques nouveaux spécimens, notamment en faune locale, de façon à avoir quand même des spécimens présentables pour les enseignements.
Si nos auditeurs ont envie de venir découvrir vos collections, par quel biais peuvent-ils venir pour voir sur place ?
Alors, en fait, je vais diviser ma réponse en deux parties, c'est-à-dire que si c'est du grand public, en fait, on fait donc 5 journées portes ouvertes, où le grand public peut venir uniquement sur réservation. Donc, dans l'ordre d'arrivée, la prochaine fois, ça sera la journée des portes ouvertes de l'université, donc samedi 16 février 2013. Ensuite, ça sera la nuit des musées, donc le 18 mai, un samedi également. Ensuite, ça sera le samedi 14 septembre, avec la journée européenne du patrimoine. Et nous participons également au Festival des sciences en octobre. Et puis, il y aura de nouveau donc, la Journée européenne des collections universitaires le 18 novembre. Sachant que nous participons également très régulièrement à des expositions, donc soit par le biais de prêts, soit par le biais d'organisations d'expositions au sein de l'université. Donc, il faut savoir que, pour donner juste quelques chiffres, au sein de l'université, on touche environ 3000 personnes et à l'extérieur, on touche plus de 60 000 personnes par an par le biais donc, de prêts qui sont faits à d'autres institutions, comme par exemple l'Espace des Sciences, le Musée des Beaux-Arts et bien d'autres encore. Ça peut être, on fait des prêts également à Laval, dans différents lieux géographiques. Et par contre, pour les scolaires, en fait, on accueille plus de 1000 élèves par an dans le cadre de visites scolaires, donc, dont le but est d'illustrer le programme scolaire des enfants, donc avec différents thèmes. Par exemple, ça peut être la classification du vivant, ça peut être la biodiversité locale, donc présenter les espèces locales. Et ils visitent également donc, la géologie et les instruments scientifiques. Et puis, cette année, on s'est lancé dans un dispositif donc, qui s'appelle ASTEP, donc Accompagnement en sciences et technologies à l'école primaire, donc en partenariat avec la ville de Rennes qui finance ce projet. Et donc, il y a des étudiants en, fait, en master 1 ici à l'université qui vont dans les classes pour construire les séances de sciences avec le professeur des écoles. Donc en fait, peut-être que les enfants des auditeurs auront quelqu'un qui amène en fait des collections à l'école pour faire les cours de sciences. Et donc cette année, nous faisons également donc, des formations des professeurs des écoles avec les conseillers pédagogiques donc de la circonscription, des circonscriptions de Rennes et de la circonscription de Châteaubourg, où donc nous utilisons les collections de zoologie pour aider les conseillers pédagogiques à former les professeurs des écoles pour leurs cours de sciences.
Donc, merci Gaëlle de nous avoir reçus aujourd'hui. Est-ce que tu aurais éventuellement un mot pour la fin, un remerciement?
Eh ben, merci à toute l'équipe de la Commission de culture scientifique et technique, à l'équipe enseignante donc en biologie animale, et puis à tous les bénévoles qui nous aident régulièrement et au Cercle naturaliste des étudiants rennais.
Si vous aussi vous souhaitez découvrir ces collections, rendez-vous sur le site de l'Université de Rennes 1 ou sur le site internet de l'émission radiocampusrennes.fr/labm sur lequel je placerai les liens vers les sites de réservation pour les visites de collections. Restez à l'écoute à l'antenne de Radio Campus Rennes 88.4 ou sur notre site internet radiocampusrennes.fr. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.